Je travaille dans plusieurs associations qui s'occupent de l'environnement, du climat et de l'écologie. Et donc récemment, j'ai étudié les conséquences de la tempête Alex sur les Alpes-Maritimes. J'ai fait une petite conférence là-dessus récemment.
Comment peut-on prévoir et prévenir un risque naturel?
Oui, alors prévenir, dans le mot prévenir, ça veut dire être au courant à l'avance. Et puis il y a d'autres choses aussi dans prévenir, ça veut dire comment éviter que ça arrive. Alors, éviter que ça arrive, eh bien là, on n'y peut rien. Pourquoi? Parce que c'est le climat de la planète, et qui est le climat global, et puis c'est aussi le climat local. Alors, il se trouve que la tempête Alex, par exemple, c'était une énorme perturbation qui était sur tout l'hémisphère nord de la planète, c'est-à-dire la partie haute du globe. Et il y a autour du pôle Nord, normalement, il y a une couronne de vent et de nuages qui tournent tout autour du pôle Nord, à peu près au nord de l'Islande ou au nord du Canada, on va dire, sur l'Alaska. Et cette bande de vent extrêmement violent, c'est des vents qui vont à 200 ou 300 à l'heure en très haute altitude. Elle a des perturbations depuis une vingtaine d'années. Ces perturbations font qu'au lieu de tourner en cercle, comme ça, j'essaie de vous montrer à l'image, ça fait des espèces de langues de froid qui descendent très bas sur l'Europe, sur les États-Unis, sur la Sibérie. Et ces langues de froid, elles génèrent des courants, des vents très importants. Et là, on a eu une langue de froid, alors ça s'appelle une perturbation du vortex polaire. Et là, on a eu donc des vents très importants qui sont descendus, qui ont contourné l'Espagne, donc qui sont descendus presque jusqu'à toucher l'Afrique, et qui sont remontés par la Méditerranée. Et en remontant par la Méditerranée, ces vents-là ont pris de l'eau, de l'humidité au-dessus de la mer, hein, c'est parce que la mer Méditerranée est chaude par rapport à l'Atlantique. Et donc, il y a eu tout un tas de nuages qui sont formés, des nuages vraiment pleins, pleins d'eau, de milliards de tonnes d'eau. Et en arrivant près des côtes françaises et côtes italiennes, il y a un phénomène lorsque ces vents arrivent près des montagnes qui sont chargées d'eau, c'est qu'il y a une condensation de l'eau. Au lieu de rester en vapeur, elle vient se mettre sous forme de gouttelettes. Et les gouttelettes, la vapeur, elle restait plus ou moins dans le nuage. Les gouttelettes, elles tombent et ça fait des pluies très importantes. Donc, ça, on ne peut rien y faire. Pourquoi? Parce que donc, c'est un phénomène global. On est dans le climat, et c'est des vents, c'est des nuages, des masses d'eau, des masses enfin, en vapeur. C'est une activité électrique aussi qui donne les orages, la foudre. Et tout ça, on ne peut rien y faire. On n'a pas de moyen de contrôler ça. Alors maintenant, pour la partie prévenir, c'est-à-dire être au courant à l'avance, il faut savoir que pour la tempête Alex, qui était, je crois, le 4 ou le 4 novembre, c'est ça? On savait que ça serait une tempête dangereuse dès le 28 du mois précédent, c'est-à-dire 5 jours avant. Donc on a su, et même les préfectures, c'est-à-dire les services de l'État, ont su plusieurs jours à l'avance que ce serait une tempête dangereuse. Et puis au fur et à mesure que les satellites voyaient mieux les masses de nuages qui s'approchaient des côtes françaises, des côtes de Nice et de la côte d'Azur et de la Ligurie, c'est-à-dire les côtés italiens, au fur et à mesure qu'on voyait mieux ça sur les satellites, on a pu affiner, on a pu dire, ben, ça arrivera vers telle heure et il y a telle masse d'eau, donc ça sera dangereux. C'est pour ça que la veille, enfin, ou quelques heures avant la tempête, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de fermer les écoles. Hein, vous vous souvenez, on nous a dit rentrez chez nous, c'était un vendredi, si je me souviens bien, et on nous a dit ben, rentrez chez vous parce qu'il va y avoir des pluies très très importantes. Voilà, donc on ne peut pas éviter ça, mais on peut, grâce à la météorologie, c'est-à-dire aux satellites d'observation, aux stations au sol, aux stations en mer qui font des mesures, on peut savoir un peu à l'avance que ça va arriver. Et si on faisait beaucoup de choses pour cette planète, on pourrait éviter que tout ça arrive, bien sûr. Mais il faut à peu près une trentaine d'années d'efforts constants, c'est-à-dire un changement de vie, pour arriver à ce que justement ce fameux vortex polaire dont on parle, qui fait des désastres en ce moment aux États-Unis, pour qu'il reste bien sagement autour du pôle Nord et qu'il ne descende pas jusque sur l'Europe ou les États-Unis.
Il y a quelque chose qui me perturbe, mais pourquoi ils l'ont appelé la tempête Alex? Je veux dire, ils auraient pu l'appeler, je ne sais pas moi, la tempête Brigitte, enfin, c'est le seul nom qui m'est venu en tête.
Oui, alors en fait, ils ont une liste de prénoms. Et ils les prennent par ordre alphabétique ou par ordre, je ne sais plus, il y a un ordre spécifique. Et comme des tempêtes, il y en a tout le temps. Chaque tempête a un nom humain. Donc, il y a, si tu vas voir sur Wikipédia, par exemple, les différentes tempêtes, ou tu regardes même tempêtes tropicales, c'est les plus gros, c'est les cyclones, c'est les plus grosses. Donc, tu as Irma, tu as Alex, tu as Brigitte, comme tu as dit. Donc là, c'est juste tombé par ordre alphabétique sur Alex. Ça devait recommencer un cycle. Et puis, maintenant, dans le nommage des tempêtes, eh bien, alors, sur Wikipédia, tu trouveras tout ça. Maintenant, on a commencé à intégrer des prénoms qui viennent d'autres pays, d'autres langues. Des prénoms africains, des prénoms asiatiques, etc.
Vous avez dit que la tempête était enregistrée comme dangereuse 5 jours avant. Y a-t-il d'autres décisions prises en dehors de la fermeture des collèges?
Oui, donc quand il y a eu cet avis de tempête, le préfet, qui est un peu le représentant de l'État pour contrôler aussi bien la police dans les Alpes-Maritimes que les services des routes ou même de l'énergie, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont pris plein de mesures. Il y a un plan qui fait partie d'un plan de prévention des risques qui est défini longtemps à l'avance. On sait qu'en cas de tempête, il faut couper certaines routes parce qu'il y a des risques d'éboulement ou parce qu'elles sont trop proches de certaines rivières et que le niveau de l'eau va monter. On sait qu'il faut déjà faire partir des spécialistes des réseaux d'eau, d'électricité ou de gaz qui soient prêts à intervenir sur les différentes zones pour rétablir le courant ou rétablir ou empêcher qu'il y ait des accidents divers. Ils envoient donc aussi des engins de chantier. Ils regardent bien que tout le monde soit à son poste sur le contrôle de la hauteur de l'eau pour les rivières, quand il y a des rivières qui sont mesurées en temps réel, c'est-à-dire qui sont mesurées tout le temps. Voilà, donc il y a tout un tas de mesures. Il y a aussi la mise en place dans les hôpitaux, on est prêt à recevoir des gens qui seraient blessés. Donc il y a des centaines de mesures qui sont prises lorsqu'on a une alerte de type alerte rouge. Il y a trois niveaux d'alerte actuellement en France sur ce genre d'événement. Et là, c'était une alerte de type rouge, où là, quand on est dans ce niveau d'alerte, il y a toute une liste de choses à faire. Et donc, le préfet, avec tous ses services, il téléphone, il avertit tout le monde et il vérifie que tout est en place pour faire face à n'importe quel type de dégâts. Ouais, on a eu la chance parce que vraiment, on l'a su à l'avance, longtemps à l'avance. Ça aurait pu être beaucoup plus de morts que ce qu'il y a eu. Hein.
Vous établissez un lien entre les tempêtes comme Alex et le réchauffement climatique?
Oui, donc je l'ai un peu dit tout à l'heure, ce sont ces fameuses perturbations du vortex polaire. Oui, alors pourquoi le réchauffement climatique fait plus de pluie ou plus de froid? Par exemple, aux États-Unis, en ce moment, c'est plus de froid. Ils sont dans des zones où normalement il doit faire actuellement 20 degrés. Aujourd'hui, il faisait moins 35, moins 40. Moins 40, c'est tous les arbres, ils explosent parce qu'ils ont encore de la sève dedans, elle gèle et donc l'arbre, il s'éclate en deux. Les branches tombent, les animaux, tous les animaux de la nature meurent parce qu'à moins 40, ils ne peuvent pas se protéger. Les canalisations d'eau, de gaz peuvent éclater aussi. Les lignes électriques, s'il y a un peu de neige dessus, avec le poids qui s'accumule, ça tombe. Donc c'est pour ça qu'au Texas, par exemple, qui est normalement un état chaud aux États-Unis, il y a actuellement des températures supérieures à moins 30, enfin inférieures à moins 30. Et c'est la catastrophe. Dans plein d'endroits, ils n'ont plus d'électricité depuis 5 jours. Donc ça, c'est vraiment le climat. C'est la même raison que ce qui a fait la tempête Alex à Nice, c'est-à-dire une perturbation du vortex polaire. Et donc, il y a plein d'effets dans les pays proches des pôles, il y a ce genre de perturbations. Dans les pays tropicaux, il y a d'autres perturbations qui sont liées à plus de pluie ou plus de sécheresse, selon qu'on soit en période sèche ou en période des pluies. Voilà, donc dans le monde entier, le climat est perturbé et ça va durer tant que l'ensemble de la planète ne fera pas des efforts très importants pour changer de mode de vie. Et donc, comme on sait que il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas changer, et ce sont des pays très très importants, donc cette situation-là va durer et même va s'amplifier. C'est-à-dire que il y aura un peu plus de tempêtes, un peu plus de sécheresse, un peu plus d'inondations, etc.
Est-ce que les plans de prévention en France s'adaptent à ce changement climatique?
Oui, disons que on est au courant que les pluies seront de plus en plus violentes. Donc ça, tous les préfets le savent, les services de l'État le savent. Donc ils adaptent les plans de prévention des risques à ces changements. On sait que les sécheresses seront de plus en plus longues en France en été. On sait que le risque incendie en été, surtout dans nos régions, tout le sud de la France, sera de plus en plus important. Donc, il y a plein de choses qui changent. Par exemple, en été, quand il y a des risques d'incendie dans les Alpes-Maritimes, dans toute la Méditerranée, on met en place des dispositifs spéciaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur le sommet des montagnes des Alpes, ou dans le Var, la moyenne montagne, hein, c'est-à-dire pas très loin de la côte, et ils sont en observation avec des jumelles toute la journée, et ils regardent s'il y a un début d'incendie quelque part. Non, mais ça, ce dispositif, il était mis en place à partir du début juillet. Depuis qu'il y a le changement climatique, ce dispositif, il est mis en place début juin. Et au lieu de finir fin août, il finit en octobre, parce qu'il y a encore des incendies en octobre. Donc oui, effectivement, il y a une évolution de tous les plans de réduction des risques en raison du changement climatique.
Les spécialistes pensaient-ils que la tempête allait faire autant de dégâts?
Oui, sinon il n'y aurait pas eu alerte rouge. On savait qu'il y avait des masses d'eau très importantes, mais on ne pouvait pas prévoir à quel endroit précisément elles allaient tomber. On sait que la condensation se ferait proche des Alpes, puisque c'est un phénomène. Ça, c'est une montagne. Quand le nuage arrive, je garde que ce côté de la montagne parce que j'ai besoin de l'autre main. Quand le nuage arrive contre la montagne, il va passer au-dessus avec le vent. Et au moment de cette compression, c'est là que l'eau tombe. C'est là que la condensation de l'air qui vient de la Méditerranée, la Méditerranée est là, voilà, on sort de la Méditerranée, on s'approche des montagnes du Mercantour, hein, en gros. Et donc là, la compression du nuage fait que l'eau va tomber très fortement sur les pentes. C'est pour ça que la région de la Vésubie et de la Roya, qui sont des zones très montagneuses avec des montagnes qui vont jusqu'à 3000 mètres d'altitude, ont été le plus impactées. Et c'est pour ça que les pluies ont dévasté donc toutes les zones de montagne. Et comme les pentes sont très fortes à ces endroits-là, l'eau s'est très très vite rassemblée en des torrents très très violents qui contenaient des cailloux, de la boue, des arbres, etc. Ces torrents, ils arrivent tous au même moment au bas des rivières, parce que là, on a une vallée, je trace une vallée d'une montagne. S'il pleut ici, quand la pluie commence à tomber, ben l'eau, elle descend le long de la vallée et elle arrive au même moment en bas. Elle continue à arriver. Et puis, il y a d'autres rivières après qui les rejoignent. Donc, c'est pour ça qu'on a des vagues, des espèces de vagues gigantesques qui arrivent d'un seul coup dans la rivière, qui sont chargées de débris de cailloux et de boue et de bois, d'arbres. Et donc, c'est ça qui fait que les dégâts sont très, très importants. Vous ne savez pas où ça tomberait. Ça aurait pu très bien tomber sur les collines niçoises ou sur le Var, enfin sur l'Estérel, ou plus vers l'Italie. Là, donc, c'est tombé sur le nord-est du département, Vésubie et Roya, et beaucoup sur la Ligurie, c'est-à-dire après la frontière italienne, au-dessus de Ventimiglia. Et puis, il y a eu une deuxième partie de la tempête Alex qui est tombée sur le nord de l'Italie, où il y a eu pas mal de dégâts aussi. Mais on le savait, parce que les satellites nous donnent l'épaisseur des nuages et la quantité d'eau qu'ils contiennent, leur température, enfin plein de paramètres.
Pour les dégâts de la tempête Alex, les médias ont aussi parlé de zones inondables dans les villages d'arrière-pays. Qu'en est-il?
Oui, alors effectivement, tout le bas des rivières, des ruisseaux, des torrents, ce sont des endroits où on ne devrait jamais construire. Mais c'est aussi là où sont les routes, parce que c'est plus facile de faire passer une route proche d'une rivière, là où c'est assez plat. Les villages ont souvent été construits proches des rivières aussi parce qu'ils pouvaient bénéficier de l'eau pour les activités humaines. Il y a longtemps, c'était parce qu'il y avait des moulins pour l'huile, pour la farine, parce qu'il y avait, ou pour les forges, hein, puisqu'on a besoin de. Il y avait aussi des mines. Il y avait des moulins qui broyaient des minerais pour faire du fer ou du cuivre dans le maritime. Donc les villages ont toujours été proches, et aussi pour abreuver les troupeaux, pour de l'eau, pour laver le linge, etc. Tout se faisait sur la rivière. Donc, les villages ont toujours été construits proches des rivières. Et les villages anciens, les anciens savaient que, d'un seul coup, la nature pouvait faire des gros orages, donc ils les mettaient à l'abri. Mais depuis l'urbanisation importante, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à construire de plus en plus bas, proche des rivières, en pensant qu'on pouvait faire des ponts très solides, des murs en béton, des digues pour empêcher l'eau de traverser les nouveaux espaces qu'on voulait conquérir. Donc on a construit de plus en plus proche des rivières, jusqu'à même construire dans les lits anciens des rivières. Alors, les rivières, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. On le voit quand on est sur la plaine du Var, là, il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau 99% de l'année, mais il y a 1% de l'année, il y a 3-4 jours dans l'année où là, il y a plein d'eau et ça, c'est inondé. Et donc, beaucoup de gens se sont dit, donc par exemple, à Saint-Martin-de-Vésubie, ils ont construit des cours de tennis, ils ont construit une gendarmerie, ils ont construit un camping sur un endroit qui recevait, qui n'était jamais inondé par l'eau. Et ils ont fait des murs, des digues, en se disant, bon, ben, si jamais il y a une pluie un peu plus grosse que d'habitude, la digue suffira pour contenir l'eau. Sauf que là, ça a vraiment été des pluies exceptionnelles et que l'eau est passée par-dessus et a tout emporté, y compris la gendarmerie. Donc, les lois ne sont plus. Alors, les lois sur l'urbanisation ne sont plus adaptées au changement climatique, ça, c'est vrai. Les lois sur les risques sont adaptées au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux risques, mais les lois sur les permis de construire en zone inondable ne sont pas adaptées. On continue à construire en zone inondable, comme par exemple dans la plaine du Var à Nice, où on construit des immeubles, on construit des supermarchés, on construit un stade, enfin le stade il est construit maintenant, etc. Donc ça ne devrait pas être possible qu'on puisse construire en zone inondable, et pourtant ça se fait parce qu'il y a des règlements qui sont contournés ou qui sont adaptés, des dérogations, c'est-à-dire des autorisations exceptionnelles qui permettent de faire des choses qui normalement devraient être interdites.
Merci.
Merci beaucoup pour cette intervention.
Ouais, oui, vous avez tout ce qu'il vous faut.
Oui.
Parfait. Eh bien, écoutez, bonne continuation et à bientôt.